Le grand défaut du Ravemann, c'est qu'il ne s'est pas demandé d'argent. Et comme on avait appris qu'il avait d'énormes difficultés pour maintenir sa yeshiva où il y a 100 élèves à peu près à l'école et une quarantaine à la yeshiva qui étudie pratiquement tous les jours, on s'est permis d'aller vers lui pour lui dire qu'est-ce qu'il en était exactement et comment il avait pu tenir pendant 4 années avec un déficit aussi énorme. Et le Ravemann nous a raconté une histoire qui fait trembler plus d'une personne quand on la raconte. C'est qu'il y a un monsieur qui venait de temps en temps à la yeshiva, qui faisait les comptes et qui le lendemain faisait le virement du trou qu'il y avait à la yeshiva du point de vue financier. Et ce monsieur est malheureusement décédé, c'était Michel Barouin, le président de la FNAC. Ce qui nous apprend que le goy qui a compris lui l'importance de l'étude de la Torah devrait peut-être nous enseigner à nous-mêmes qu'on devrait être un peu plus actif à ce niveau. Il est évident que pour le déficit du Ravemann de 50 000 francs par mois, aucun de nous, malheureusement, n'est capable de le financer seul. Par contre, si on peut, nous, tous ensemble, nous associer à l'œuvre que le Ravemann est en train de tenir, sans vouloir lui lancer de fleurs, à bout de bras et tout seul, pour ceux qui le souhaitent, nous avons des petits bordereaux et des ordres de virement mensuels pour qu'il puisse organiser son budget. Il y a 100 élèves actuellement, il y a 180 inscrits pour l'année prochaine. Est-ce qu'il doit les refuser ou les accepter? On ne sait pas. Par contre, si en fonction des virements mensuels, il saura qu'il a un budget qui tombe tous les mois, et pas donner grand-chose, il ne faut pas donner 2000 francs ou 5000 francs par mois, on n'en a pas les moyens. Chacun suivant ses possibilités. À la limite, le problème qu'a le Ravemann, c'est un cadeau qui nous est fait de pouvoir faire cette mitzvah. Je passe la parole tout de suite au Ravemann qui va nous parler de la tzedaka. Est-ce que la tzedaka évite-t-elle la mort?
Je crois que c'est la première fois qu'on passe de la pratique à la théorie, alors qu'on a l'habitude de passer de la théorie à la pratique. Je peux dire que je suis agréablement surpris. Ne pensez pas que c'était un coup monté. Je ne m'étendrai pas en remerciements pour tous ceux qui aideront, parce que ce n'est pas à moi de les remercier. Lorsque quelqu'un fait une mitzvah, on a l'habitude de lui dire « tizke la mitzvot », c'est-à-dire que tu puisses en faire encore beaucoup. Et c'est pourquoi tout celui qui pourra s'intéresser à ce genre de choses, pour lui aussi, que lui vienne cette bénédiction de « tizke la mitzvot ». Le sujet qui a été proposé, c'est un sujet difficile. Est-ce que la tzedaka évite-t-elle la mort? D'où viendrait cette idée bizarre? Justement, lorsque l'on dit à quelqu'un tizke la mitzvot, c'est lui souhaiter un peu de vie pour qu'il puisse faire d'autres mitzvot. Et l'on voit donc que même dans notre parler, on a acquis cette idée-là, que c'est la mitzvah, que c'est la tzedaka qui augmente les possibilités, qui augmente la vie, qui augmente les mitzvot. Et on va essayer un petit peu de savoir d'où est-ce que cela vient. Comment est-ce que les chachamim, comment est-ce que la Torah a compris cette idée-là? Il y a deux histoires qui sont racontées dans la Gemara, dans le traité de Shabbat, Davkuf Nun Vav. Laissez-moi 5 minutes pour vous les raconter. La première histoire, c'est l'histoire de Shmuel. Shmuel qui est un des rédacteurs du Talmud. Il était assis et il conversait avec un homme qui était non-juif et qui s'y connaissait en astrologie, qui avait l'habitude de faire des horoscopes. Et ils ont vu deux personnes qui allaient avec leurs ustensiles, leurs faux, pour couper des canimes, pour couper des joncs au bord de la rivière. Celui qui était avec Shmuel lui a dit, « Regarde, celui-ci ne reviendra pas parce qu'il sera mordu par un serpent. » Et Shmuel lui a dit, « Si c'est un juif, s'il est mis Israël, il reviendra. » La Gemara raconte qu'ils ont attendu un petit peu, ils ont vu les deux hommes revenir. À ce moment-là, Shmuel s'est approché de l'un d'eux et il a vu qu'au milieu du fagot, il y avait un serpent qui était coupé en deux. Lorsqu'il avait coupé un jonc, il ne s'était pas rendu compte qu'il y avait un serpent au milieu, et il l'a coupé en coupant le jonc. Shmuel lui a demandé, « Klum ma'ase baliyadra, as-tu fait quelque action méritante aujourd'hui ?» Et lui a répondu, « La seule chose que j'ai fait, que l'on peut considérer comme méritant, c'est que dans mon travail, nous sommes là tous les ouvriers, chacun amène son manger, on le met dans un grand panier. Et après, celui qui a distribué donne à chacun une part. Nous mettons notre pitance en commun. Et ce matin, j'ai vu qu'il y en avait un qui n'avait rien à manger. Il n'avait pas amené son pain. Et alors, c'est moi-même qui ai pris sur moi de récolter les pains de chacun. Et au moment où je suis passé devant lui, j'ai mis un pain à moi en plus dedans. Et au moment où j'ai partagé, personne n'avait remarqué qu'il n'en avait pas. À ce moment-là, Shmuel a dit, « Maintenant, je comprends le verset dans Michelet, « Tzedaka tatzil mimavet, c'est la tzedaka qui sauve de la mort. »« Mikan amar Shmuel, et de là a dit Shmuel, « En mazal Israël, il n'y a pas de mazal, il n'y a pas d'horoscope, il n'y a pas de façon de déterminer le destin d'Israël. » Ça, c'est la première histoire. La deuxième histoire que raconte la Gemara, c'est l'histoire de la fille de Rabbi Akiva. La fille de Rabbi Akiva, il y avait un jour un homme qui était diseur de bonne aventure et qui a dit à Rabbi Akiva, ne la marie pas, parce que le jour de son mariage, elle va mourir. Et Rabbi Akiva, dit la Gemara, était doreg, il avait peur. Et quand même un jour, sa fille est venue et lui a annoncé son mariage. Et Rabbi Akiva, le matin du mariage, est rentré dans la chambre de sa fille. Il a vu une broche avec une épingle, et dans l'épingle était fiché un serpent. Il a demandé à sa fille ce qui s'était passé, elle n'avait rien vu. Elle avait ôté l'épingle de ses cheveux, et elle l'avait fiché quelque part où il y avait un serpent, et ce serpent est mort. Rabbi Akiva lui a demandé, « Klouma se baléader, as-tu fait quelque chose de méritoire aujourd'hui ?» Elle lui a répondu, « Je ne pense pas, la seule chose que j'ai fait, c'est que hier soir, au moment où l'on servait le repas à tous les invités, il y a un homme qui est venu frapper à la porte et qui a demandé à manger. Et comme tout le monde était à la joie, et moi, la Kala, était la seule qui était servie, qui n'avait rien besoin de faire, ni rien besoin de préparer, j'ai pris ma part et j'ai donné à cet homme. » À ce moment-là, dit Rabbi Akiva, « Tzedaka tatzil mimavet, c'est la tzedaka qui sauve de la mort, en mazal Israël. » Il n'y a pas de mazal, il n'y a pas de destin, de détermination pour Israël. Voilà les deux textes de la Gemara. De ces deux textes, nous apprenons trois choses. Premièrement, qu'il existe un destin, qu'il existe quelque chose qui détermine toute la nature, à part Israël. Deuxièmement, que la tzedaka sauve de la mort. Et troisièmement, ça nous apprenons de l'histoire de Shmuel, que la tzedaka, ça n'est pas seulement de donner à quelqu'un qui n'a pas, ça n'est pas seulement de donner à un pauvre parce qu'il lui manque, quelqu'un qui n'aurait pas ponctuellement le jour même. Et la Gemara raconte que cet homme qui a dit à Shmuel qu'il partageait les pains avec les ouvriers, il lui a dit que la raison pour laquelle il a fait ça, c'est « qui eichid lo yirsif » pour qu'il ne se gêne pas, qu'il n'ait pas honte. Que quelqu'un n'ait pas honte, ça s'appelle aussi de la tzedaka. Ça, ce sont les trois choses que nous avons à comprendre de ces deux histoires que raconte la Gemara dans Shabbat et que nous devons comprendre. On va commencer par la dernière. Qui eichid lo yirsif, Shmuel a dit, lorsque j'ai fait ça, c'est pour que cet homme n'ait pas à se gêner. Ça n'était peut-être pas qu'il ne pouvait pas sauver qu'il ne pouvait pas sauter un repas. Ça n'était peut-être pas qu'il n'avait pas les moyens. Mais c'était qu'il avait honte de partager la pitance commune alors que lui n'avait rien amené. Ça aussi, ça s'appelle de la tzedaka. On voit donc que la définition de la tzedaka, c'est non seulement donner à celui qui n'a pas, mais c'est surtout rétablir une situation anormale et la mettre sous un profil qui est agréable ou qui est possible pour tout le monde. Le mot de tzedaka vient du mot tzedek. Tzedek en hébreu veut dire la justice. Et pourtant tout le monde sait que ces deux mots tzedaka et justice sont deux mots totalement différents. Puisque la Gemara demande mishpat ou tzedaka. Nous disons dans le verset justice et charité. Im mishpat en tzedaka, in tzedaka en mishpat. Si l'on agit avec justice, il n'y a pas de charité. Si l'on agit avec charité, il y a l'injustice. Pourquoi celui-là recevrait ce que les autres ne reçoivent pas? Et pourquoi moi devrais-je partager et avoir moins que l'autre? S'il y a la justice, il n'y a pas de charité. S'il y a de charité, il n'y a pas la justice. C'est vrai. C'est une mitzvah de la Torah. Lorsque se présentent deux personnes devant le juge, on n'a pas le droit de favoriser celui qui n'a pas. On n'a pas le droit de lui demander s'il a ou s'il n'a pas. Tout le monde est égal devant la justice. Au moment où il s'agit de régler la justice, il n'y a pas de charité qui tienne. Il n'y a pas de tzedaka qui tienne. Le pauvre qui a volé devra rembourser, même s'il a volé, l'homme le plus riche du monde. Ça, c'est mishpat, c'est la, le tzedek, c'est la justice. Mais il y a autre chose, c'est la tzedaka. Et elle vient quand même du mot justice. Parce que de même que la justice, c'est de rétablir quelqu'un dans son bon droit, de même, la tzedaka, c'est de le rétablir dans quelque chose aussi. Tout celui qui est dans une position défavorable, tout celui à qui l'on peut donner quelque chose, tout celui à qui il manque quelque chose au moment présent, le fait de le rétablir en dehors de son manque, cela s'appellera de la tzedaka et c'est une forme de justice. C'est la raison pour laquelle la Torah emploie presque le même mot, tzedek et tzedaka. Bien que la justice et la charité soient deux choses contraires. Mais l'esprit est le même. La justice est là pour que celui qui pense avoir des droits puisse les avoir. La tzedaka est là pour que celui qui doit avoir des moyens puisse les avoir. Ça, c'est la première chose que nous voyons. Il y a encore deux autres choses. Comment comprendre ce qu'a dit Shmuel et ce qu'a dit Rabbi Akiva? Tzedaka tatzil mimavet. C'est la tzedaka qui t'a sauvé de la mort. Pourquoi juste la tzedaka? Peut-être que cet homme-là a mis les tefilines le matin. Peut-être que cette fille à la fille de Rabbi Akiva, sûrement le matin en se levant, elle a prié. Elle a pu faire d'autres mitzvot dans la journée. Pourquoi avoir pensé que c'est la tzedaka qui a sauvé ces deux personnes-là? Pour cela, on est obligé d'expliquer le terme de ce qui s'appelle le mazal. La Torah pose que le monde a été créé par Akadosh Baruch Hu, par Dieu. Qui dit création dit volonté. Il est de la volonté d'Akadosh Baruch Hu que l'homme naisse, qu'une neshama, qu'une âme soit mise dans un corps et qu'elle vive, qu'elle fasse quelque chose, ce que l'on appelle des ma'asim, c'est-à-dire qu'elle agisse. Ça, c'est la volonté de l'Akadosh Baruch. Qui dit volonté est obligé de dire obéissance à cette volonté ou soumission à cette volonté. Et qui dit obéissance et qui dit soumission dit règle. Il est impossible d'aller selon une certaine volonté s'il n'y a pas des règles. Comment aller selon cette volonté? On est donc obligé de dire que la vie de l'homme doit être régie par certaines règles. Et nous, nous voyons dans la nature qu'il en est ainsi. Que ce soit le minéral ou que ce soit l'animal, nous voyons que chacun obéit à des règles strictes et définies. Jusque les plus petites particules de la nature, dont nous, nous voyons qu'elles ont des règles qui sont immuables et qui sont définies depuis toujours. Pour nous, c'est une des preuves qu'il existe une volonté derrière. Parce que nous savons que ce qui est produit du hasard, il n'y a aucune raison que cela obéisse à une règle. Parce que si c'est produit du hasard, alors la règle aussi devient du hasard. Et nous, nous voyons qu'il n'y a pas de hasard dans la création, que dans la nature, chaque chose, chaque élément obéit à une règle et à sa place déterminée. Ça, c'est valable pour le minéral, pour l'animal, pour le végétal, Est-ce que c'est valable pour l'homme? Puisqu'il est de la volonté d'Akadosh Baruch Hu que la neshama, que l'âme d'un homme vienne sur la terre et qu'elle puisse agir, qu'elle puisse exister, nous devons penser qu'il y a aussi des règles. La première règle est certaine, c'est celle de la vie et celle de la mort. C'est la seule chose dont nous sommes sûrs, qu'il y a une détermination absolue. Ce sont les deux choses que l'on ne choisira pas soi-même. Mais il y a encore autre chose. C'est ce que les Chachamim appellent le mazal. On peut penser que ce qui arrive à l'homme, du fait que sa venue ici-bas n'est pas celle du hasard, elle obéit à une volonté, que sa vie aussi est réglée selon une certaine volonté. Selon le fait qu'Akadosh Baruch Hu veuille de lui quelque chose. Selon le fait que sa neshama, son âme qui est venue ici-bas, a un besoin. Elle est là pour un certain motif. Elle est là pour se réaliser, elle est là pour exister, elle est là pour agir. Et alors, on va la cantonner dans certaines règles. Ces règles-là, nous appelons ça le déterminisme. Il y a des règles pour les hommes, il y a des règles pour les sociétés, il y a des règles pour l'histoire. Tout le monde connaît la théorie marxiste qui adapte les règles hegeliennes à l'histoire. On a constaté que toute histoire de société, de quelconque société, était toujours passée par quatre phases. La première phase, c'est ce qu'on appelle la préhistoire, c'est l'organisation. Une société doit s'organiser. Que ce soit la société du monde actuel qui un jour a eu une préhistoire, ou que ce soit chaque société lorsqu'elle se crée individuellement. Il est obligé d'avoir une première organisation. C'est ce que l'on appelle la préhistoire. Cette organisation de société va mener fatalement à ce que l'un soit plus fort que l'autre. C'est ce qui mène à la deuxième phase que l'on appelle l'esclavage. Cet esclavage automatiquement va mener à la libération de l'esclave, puisqu'on ne peut pas maintenir quelqu'un dans une position la plus basse. Et c'est ce qu'on appelle l'homme bourgeois. Et un jour, cela va éclater en révolution. Ce sont des lois qu'on a constatées. Et on l'a constaté non seulement dans l'évolution de notre société à nous, mais dans la mini-évolution de toutes les sociétés, les mini-sociétés qui ont pu se créer sur la Terre. Et nous, pourtant, nous disons, ça, cela s'appelle du mazal, mais en mazal Israël. Pourquoi en mazal Israël? Il y a une Gemara dans le traité de Rosh Hashanah d'Aftet Zayin. La Gemara dit ceci. Il y a quatre choses, mais trois principalement. Chez Korim Gzardino Shel Adam. Motamo, qui lui casse son mazal. Qui casse ce qui a été déterminé pour lui. La première chose, c'est la tshuva. Lorsque j'ai déterminé un certain ordre, il ne faut pas croire que je ne puisse pas revenir en arrière. La Torah pose qu'il existe la teshuva. Je peux effacer un certain ordre. On a commencé par une préhistoire, on est arrivé même jusqu'à l'ordre bourgeois. On peut recommencer à la préhistoire si on veut. Il n'y a rien qui soit absolument déterminé et pour lequel on ne puisse pas revenir en arrière. Chaque action, on peut revenir en arrière. On pourra étudier les halachot, on pourra étudier les halachot de teshuva, comment fait-on teshuva? Qu'est-ce que c'est la teshuva? Ça n'est pas notre propos. Mais en tout cas, la Torah pose qu'il existe un principe teshuva. Chaque acte que j'ai fait, je peux l'effacer. La deuxième chose, c'est la tefila. Tefila, ça veut dire qu'il existe la prière. Un homme n'est pas seul. Qui dit détermination, dit solitude. Et ça, il faut l'expliquer. Si l'on imaginait que l'homme avait été créé seul. Mais seul, cela veut dire seul. Sans aucun autre homme et sans aucun autre élément. Tout seul. Chacun tout seul dans son coin. Cette solitude, elle est synonyme de prison. Elle est synonyme de non-action. Elle est synonyme d'immobilisme. Elle est synonyme de détermination absolue. Celui qui est tout seul, qui n'a même pas un objet avec lui, Non seulement il n'a pas un objet, il n'a pas un animal, il n'a pas un végétal, il n'a pas un minéral, il n'a pas un autre homme. Il n'a rien, il est tout seul. Il est enfermé. Il n'a pas de moyens d'action. C'est le contraire de la liberté. C'est ça ce qu'il faut comprendre. La solitude, alors que l'on pourrait croire que c'est la liberté absolue d'agir, en vérité, le contraire de la liberté, ça n'est pas l'esclavage, parce que l'esclavage détermine toujours une certaine liberté. C'est la solitude. L'homme n'a pas été créé seul. Il y a quelqu'un qui l'a créé, ce quelqu'un s'appelle Akadosh Baruch Hu. Il n'est donc pas seul, puisqu'il n'est pas seul, quelque part, il n'est pas entièrement déterminé. Chaque fois que je ne suis pas seul, même si c'est avec un objet, j'ai au moins la liberté de prendre cet objet-là ou de le rejeter. Au moins ça. Donc je ne suis pas entièrement déterminé. Le contraire de la liberté, c'est la solitude. C'est pour ça qu'il existe la tefila. On n'est pas seul, on peut s'adresser à Kadosh Baruch Hu. On a quelqu'un à qui parler. C'est pour ça, c'est qu'au réaxardino chez la dame, ça enlève le déterminisme. La troisième chose, c'est la tzedaka. Non seulement l'homme n'est pas seul, il a Akadosh Baruch Hu, il a Dieu, mais il a d'autres hommes, il n'a pas été créé seul. Et puisqu'il a d'autres hommes, il a donc le contraire de la solitude. Il a donc des moyens d'action. S'il a des moyens d'action, ils dépendent de lui, ou ils dépendent de l'autre, ou ils dépendent de tous les deux, mais il n'est plus seul. S'il n'est plus seul, il n'est plus déterminé. Ces trois choses, nous dit la Gemara, la tshuva, la tefila et la tzedaka, ce sont nos preuves qu'il n'existe pas de déterministe en mazal Israël. C'est ça ce qu'on appelle korea gzardino chez la dame. Cela enlève ce qui scelle l'homme. Cela enlève sa solitude. Ces trois choses enlèvent sa solitude. Pour pouvoir agir, pour pouvoir être libre et ne pas être solitaire, un homme a ces trois moyens d'action là. Seulement, il y a une différence dans les trois moyens. La teshuvah, elle n'a aucun impact extérieur, elle n'est que par rapport à lui-même. Elle ne rend pas compte du fait que l'homme n'a pas été créé seul. Parce que même l'homme qui aurait été créé sans son prochain, il peut faire des bêtises, il aurait pu être créé avec un objet, et faire quelque chose de mal vis-à-vis de cet objet-là. Et à ce moment-là, il aurait suffi de la teshuvah. Un homme aurait pu aussi ne pas être avec ses semblables et être tout seul avec Akadosh Baruch Hu. Et il aurait aussi eu la tefila. Ce qui donne la dimension au fait que l'homme n'a pas été créé seul, mais que justement dans la nature il y a d'autres hommes, et que si Akadosh Baruch Hu a créé l'homme avec d'autres hommes, c'est qu'il n'existe pas seulement d'aventure individuelle, mais il existe aussi une aventure collective. Cette dimension, elle est donnée par la tzedaka. C'est-à-dire que je peux donner à l'autre. C'est vrai qu'il y a l'inverse, puisque je suis libre, puisque l'autre, c'est ma liberté, je peux aussi lui prendre. À partir du moment où je lui prends, c'est une autre dépendance, c'est une autre solitude. C'est ça qu'il faut comprendre. Lorsque je donne, j'ai brisé la solitude. J'ai pris, au contraire, je me suis de nouveau enfermé, je me suis de nouveau mis dépendant. Et nous avons dit que la solitude, c'est la dépendance absolue. Je ne suis libre de rien. Je ne peux rien faire. Je n'ai le choix dans rien. Je suis entièrement dépendant de quoi? De ma solitude. Celui qui prend et qui ne donne pas, à partir du moment où il prend, il se met une nouvelle chaîne. Et il n'y a que d'une personne vis-à-vis de laquelle il est obligé de prendre. Il n'y a qu'un être vis-à-vis duquel il est dépendant, c'est Akadosh Baruch. C'est ça ce que nous disons tous les jours dans le Birkat Amazon. Ve al tatzrichenu lidei matnat basar vedam. Que l'on puisse demander ce dont on a besoin à Akadosh Baruch lui-même, pas à un autre homme. Parce que là, c'est une nouvelle solitude. C'est un nouvel enchaînement, c'est un nouveau déterminisme. Je dépends de quelque chose. Mais lorsque je donne, à ce moment-là, j'ai brisé ce déterminisme-là. Comme ça, on peut comprendre ce qu'a dit Rabbi Akiva et ce qu'a dit Shmuel, que en mazal Israël. On nous a donné ces trois moyens-là. Il y a un moyen difficilement vérifiable, c'est la tefila. Combien un homme estime vraiment qu'il est dépendant d'Akadosh Baruch Hu dans sa vie? Comment dans chaque acte, il conçoit que ce n'est pas lui qui détermine, c'est Akadosh Baruch Hu? Selon ceci, sa tefila, sa prière a une portée. Combien un homme est capable de revenir sur ses actions, de devenir un tzaddik s'il était un rachat? Selon ceci, dépend sa teshuva. Mais la tzedaka, elle ne dépend de rien. Elle dépend seulement du fait de pouvoir agir. Si j'agis, j'ai déjà un petit peu conquis cette liberté. C'est pour ça, nous dit Shmuel et nous dit Rabbi Akiva, tzedaka, tatsil mi mavet. Maintenant, on va essayer de comprendre. Mavet, la mort, c'est ce qui est déterminé absolument. Qui dit début, dit fin. Lorsque l'on débute, il y aura une fin. C'est déterminé par le début. À partir de ce moment-là, nous disons Tzedaka, Tatsil va sauver Mimavet de la mort. Ça veut dire que puisque j'agis, je suis un petit peu moins déterminé. Et si je suis moins déterminé, j'ai une raison d'être qui n'est pas celle qu'on m'a donnée. Puisque celle qu'on m'a donnée, c'est celle qui me détermine. Et si j'ai une raison d'être à moi, alors à ce moment-là, j'ai une raison de vivre. Autre que celle qui a été prévue par Akadosh Baruch Hu au moment de ma naissance. J'ai une raison que je me suis forgée moi-même. Ça veut dire que l'on pourrait peut-être disposer soi-même de son mazal. Même dans la chose la plus inéluctable, qui est la mort. C'est ça les deux histoires qui sont racontées dans la Gemara dans Shabbat. À partir du moment où j'acquiers une certaine liberté, ça n'est plus la vie qu'on m'a donnée, c'est celle que j'ai conquise moi-même. Et celle-ci, je ne connais pas sa limite. Elle n'a plus rien à voir avec le début, avec celle qu'on m'a donnée. Puisque c'est la mienne, c'est moi qui l'ai conquise. J'ai agi. Quelque chose dépend de moi. C'est ça ce qu'on appelle vivre. Vivre, c'est quelqu'un qui est original. Vivre, c'est quelqu'un qui est à part. C'est quelqu'un qui a sa vie propre. Sa vie propre, elle existe par rapport à ce qu'elle amène comme originalité aux autres. Tzedaka, tatsil mimavet, c'est ce que disent ici les Chachamim. Il serait incompréhensible que soit fixé un destin pour moi qui est de tant et tant de jours de vie et tel est un instant de mort, puisque j'ai une possibilité d'être original, d'apporter quelque chose, de faire quelque chose de moi-même. À partir de ce moment-là, dans une certaine mesure, je dispose de moi-même. C'est pour ça que le fait que tzedaka tatsil mimavet, que la tzedaka sauve de la mort, c'est contraire au mazal, c'est contraire au déterminisme, c'est contraire à tout ce qui a été fixé pour moi, puisque j'ai brisé cette solitude-là. À partir de ce moment-là, j'ai quelque chose qui m'appartient. J'ai une raison de vivre par mes propres moyens. Et ça, si on réfléchit, ça va très loin. Ça voudrait dire que ce qui a été fixé pour chaque homme, selon les lois qu'on peut appeler les lois de la nature, selon les règles qui sont ceux de la volonté d'Akadosh Baruch Hu dans la création du monde, le vieillissement, c'en est une. On est attaché à certaines règles. Mais ça doit être assez élastique pour pouvoir conquérir quelque chose qui soit à soi, une raison d'être qui est personnelle. Moi aussi maintenant, je fais partie d'un cycle, d'une règle, de celui qui donne à l'autre et l'autre reçoit. Et si je n'étais pas là, il n'aurait peut-être pas reçu. J'ai créé une nouvelle chaîne, j'ai créé quelque chose de nouveau. Ce quelque chose de nouveau, il a ses règles à lui. Ça, c'est confirmé par un midrash. Donc maintenant, on pourrait comprendre la portée. Il y a marqué dans le midrash dans Bereshit que Dieu, au moment de la création, a demandé à toutes les midot, il a demandé à toutes les qualités, il a demandé à tout ce qui était bien, est-ce que l'homme est possible ? le Emmet, il y a libéré. Il ne faut pas le créer. Chez Koulo d'Auberge Karim, un homme ment. Il n'est pas vrai. Shalom Amar, la paix a dit, à libéré. Il ne faut pas le créer. Chez Koulo Oseketatot, il se bat. Il est belliqueux. Tzedaka Amra Yibare. La Tzedaka a dit, il faut le créer. Chez Koulo Ose Tzedakot. Parce que il est entièrement capable de faire une Tzedaka. Koulo Ose Tzedakot. Il est centré vers quelque chose qui s'appelle le don. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que le fait de pouvoir apporter quelque chose de nouveau, c'est une nouvelle raison de vivre. Il y a une histoire que j'ai entendue du Chazon Ish. Le Chazon Ish, un jour, un homme est venu chez lui et il lui a demandé, est-ce qu'il est bien pour moi de souscrire à une assurance vie ? Normalement, celui qui s'assure, il s'assure contre le bon Dieu. Si le bon Dieu veut te faire telle ou telle chose, tu as une parade. Est-ce que c'est bien? Si jamais il devait avoir un incendie chez moi, alors je vais m'assurer contre l'incendie. Les gens s'assurent même sur la vie. C'est-à-dire que s'il n'y a pas besoin de lui, un coffre-fort va le remplacer. Donc on s'assure contre tous les maux de la vie. Les maux de la vie, entre parenthèses, ça veut dire tout ce qu'Akadosh Baruch Hu peut nous faire. Et il a demandé au Chazon Ish, qu'est-ce que c'est bien? Le Chazon Ish lui a dit, d'après l'Halakha, pourquoi pas? Mais je vois un seul problème. Qui sait? Qui peut savoir pourquoi il vit? Qui peut dire qu'à chaque instant il a mérité la vie? Il échappe à son mazal? Qui connaît son mazal? Qui sait en quoi il est déterminé? Comment il va y échapper? Peut-être la seule raison pour laquelle tu vis, c'est parce que ta famille a besoin de toi. Si tu la remplaces par un contrat, alors on n'aura plus besoin de toi. C'est à ça qu'il faut réfléchir. C'est comme ça qu'il le dit le Chazon Ish. Ça, c'est la vraie dimension de Tzedaka Tatzil Mimaret. Celui qui agit, celui qui est indispensable, celui donc qui vit, celui-là, il est sûr de quelque chose. On a besoin de lui. Il est un des maillons, un des éléments de la vie. Et ça, il l'a conquis de lui-même. Ça, c'était son choix, c'est la justification de sa création. Ça lui ouvre des possibilités. Même si de l'autre côté, peut-être que ses actes, peut-être que ses mérites ne lui ont pas donné. En fin de compte, on a besoin de lui, il sert à quelque chose. C'est la raison pour laquelle la Gemara nous dit, c'est une Gemara dans Ketuvot Daf Nun, la Gemara dit, Ose tzedaka bechol et. Il y a un verset où il est dit, il y a des gens qui font la tzedaka bechol et à chaque instant. On m'a dit, comment on peut faire la tzedaka à chaque instant? Il y a au moins un moment où on est obligé de manger, un moment où on est obligé de dormir, un moment où on est obligé de faire quelque chose d'autre que de faire de la tzedaka. Comment peut-on faire la tzedaka bechol et à chaque instant, à chaque moment? Comment dire, deux façons. Ses enfants, au lieu de les envoyer travailler, il les nourrit. Ils vivent par lui, grâce à lui. Il fait donc la tzedaka bechol et à chaque instant. Parce que ce dont l'autre dispose, ça n'est pas en rapport avec le moment où il lui donne. Ça, la Gemara nous dit encore une deuxième possibilité. Machnis yatom betorbeto umasio. Il prend un orphelin et il le marie. L'autre est marié. Il a fait quelque chose, ça existe. L'autre vit. L'autre a une vie à part. Cette vie-là, elle est becholet à chaque instant. Ça s'appelle Ose Tzedaka becholet. C'est au point que le Midrash nous dit qu'il y a une différence entre ce qui s'appelle Mida Tova et Mida Tapuranut. Lorsqu'un homme fait une action qui est classée comme bonne ou classée comme mauvaise. Lorsqu'il est classé comme mauvaise, puisque la Gemara nous dit que Meruba Mida Tova, la Mida Tova, la bonne action, elle est Meruba, elle va plus loin que la mauvaise. Comment est-ce qu'elle va plus loin que la mauvaise? Il y a une histoire très simple. Un jour, il y avait un homme dans une ville. Une femme est venue, elle a frappé à sa porte et elle lui a demandé de quoi manger. Il n'avait pas le temps, il était pressé. Et comme il y avait de toute façon marqué sur la porte que le colportage et la mendicité sont interdits, elle est repartie sans rien. Elle est morte de faim ainsi que ses enfants. Elle lui demandait une prouta, elle lui demandait une pièce. Lorsqu'il est arrivé au Beit Din Shel Maala, lorsqu'il est arrivé au moment où Dieu juge les hommes, on lui a dit, voilà ce que tu as fait. Et à ce moment, il a dit, oui, mais je me rappelle qu'il y a un autre moment où j'ai oui fait la tzedaka. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, il y avait un homme qui ne pouvait pas se marier. Il est venu chez moi, il m'a demandé de quoi se marier, de quoi avoir la possibilité de fonder un foyer. Je ne lui ai pas donné beaucoup, je lui ai donné aussi une pièce. La même que j'ai refusée à l'autre, mais je lui ai donné. Alors on a dit, on va voir ce qu'est devenu cet homme. Cet homme, il s'est marié, il avait 8 enfants. Chacun de ses enfants s'est marié, ils ont eu 6 enfants après. Tout d'un coup, il avait à son crédit une centaine, 200, 300, je ne sais pas combien de vies. Ça veut dire que d'être un maillon dans une chaîne, à partir du moment où je suis le maillon, ça ne s'arrêtera jamais. À partir du moment où on stoppe, ça stoppera aussi quelque part d'autre. Meruba mida tova mi mida tapuranut. Ça veut dire que l'action qui est positive, elle a une portée incalculable. Cette portée incalculable, c'est ce qui échappe au mazal, c'est ce qui s'appelle la vie. C'est ça le pshat, tzedaka tatzil mimavet. Et ça, c'est une réalité, comme nous dit la Gemara dans Shabbat. L'histoire de Shmuel, l'histoire de Akiva qu'on a raconté. Et il y a encore autre chose. Il y a un midrash dans Vaikra. Perek Lamed Dalet, midrash Rabba. Le midrash Rabba dit ceci. Le midrash Rabba dit Gedola tzedaka. La tzedaka, c'est quelque chose de fort au point. Que non seulement Tartonim Tzrichim là, ce sont les hommes qui en ont besoin. Avala filu Elionim Teluyim Zebeze. Même Elionim, Elionim, ce sont les anges Teluyim Zebeze. Ils dépendent l'un de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque le Midrash emploie l'expression Elionim ou les anges, on n'est pas obligé de se figurer des êtres avec des ailes ou sans ailes. Les anges. Cela veut dire que ce qui nous arrive, ça passe par différents canaux, par différentes lois. Tout ce qui se passe dans la nature, c'est élaboré. C'est élaboré quelque part. C'est élaboré selon la volonté d'Akadosh Baruch Hu et ça passe par des messages, par des lois, par un déterminisme. C'est ce qu'on appelle les anges. Malach veut dire un envoyé. Tout ce qui est une relation entre Dieu et l'homme s'appelle un malach. Elionim, le monde est fait. Et c'est ce que nous disons tous les matins dans le Yotzer. Les Sraphim et les Chayot qui viennent et qui disent Shira, et l'un avant l'autre et l'autre avant l'un, ils dépendent aussi l'un de l'autre. La nature elle-même est faite qu'une chose dépend toujours de l'autre. La vie est faite comme ça. Paradoxalement, je peux échapper à cette dépendance par une autre dépendance qui est celle de la relation de don de l'un par rapport à l'autre. Comme ça, on peut comprendre Tzedakat Hatzilim, en fait. On a créé quelque chose qui existe. Et plus elle existera en soi, plus il y a de création. C'est pour ça que la Gemara, donc, tout le monde, la Gemara demande. Il y a marqué dans le verset, Vetzidkato omedet laad. Dans les Teilim, il est dit, Tzidkato la tzedaka d'un homme, omedet laad. Elle reste à tout jamais. Quelle est la chose qui peut rester à tout jamais? La Gemara nous dit, Alomed umelamed l'acherim. Celui qui apprend et qui enseigne aux autres. Ce qu'il a enseigné, c'est une notion objective qui existe. Celui qui a appris, il est devenu autre. Omedet laad, c'est une chose que l'on ne peut jamais rayer. Ça, c'est ce qu'on appelle tzidkato omedet laad. C'est pour ça qu'on avait dit en troisièmement que de l'histoire de Shmuel et de Rabbi Akiva, on avait appris que la tzedaka, ça n'est pas seulement de donner de l'argent. C'est toute action qui est reçue et qui rétablit quelque chose ou qui donne quelque chose. À l'omed, ou me l'amed l'acherim, celui qui donne la possibilité à l'autre d'apprendre, qui donne à l'autre la possibilité de devenir, qui construit quelque chose, cette construction ne pourra jamais l'effacer. Elle est omed et la'ad. Elle ne s'enlèvera jamais. Ce que je sais, ce que je deviens, ce que ma personnalité éprouve comme changement, c'est quelque chose qui ne s'efface pas. Ça a existé, ça existera toujours. La Gemara donne un autre exemple. Akotev Sfarim ou Mashilon Lacherim. Il imprime des livres et il les prête aux autres. Le livre, il est là, il existe. C'est une possibilité qui existe pour l'autre, l'ad. Ce qu'on a appris d'un livre, c'est pas le livre. Le livre, on peut le brûler. Le livre, on peut le perdre. Le livre, on peut l'abîmer. Le livre, il se détériore. Ce qu'on a appris du livre, ça restera toujours. Ça va loin au point que la Gemara nous dit, tout celui, Amalim Einav Minatzedaka, il détourne ses yeux de donner quelque chose à l'autre. Il est Malim Einav. C'est pas pour lui, il est seul, il est dans sa solitude. Que Ilu Oved Avoda Zara. C'est comme s'il pratique l'idolâtrie. Ça veut dire quoi? L'idolâtrie, c'est le déterminisme par excellence. Le fait de penser que c'est l'étoile qui me détermine. Il est peut-être possible que dans les étoiles, je retrouve une loi qui fait partie du déterminisme. Mais de dire que c'est l'étoile qui me détermine, c'est comme dire que c'est l'atome qui me détermine, bien que tout passe par l'atome. Ça veut dire que de la loi, on a fait une volonté. Alors que la loi, on a dit au commencement, c'est une façon d'expression d'une volonté. Ça, c'est ce qui s'appelle Avodah Zara, l'idolâtrie. De donner un moyen, la force de celui qui a exprimé. Ça, ça n'est qu'un moyen, ça n'est qu'un véhicule. Celui qui est Oved Avodah Zara, celui qui s'adresse au véhicule, ce qui n'a pas compris d'où ça vient. Ma'ali Meina Vina Tzedaka. Tu n'as pas compris comment ça marche. Tu as compris que tu es seul. Tu es enchaîné, tu es déterminé totalement. Maintenant, vous pouvez ouvrir le Midrash dans Vayikra. Kafalef, le Midrash là-bas dit ceci. Adam noten pruta le chavero. Un homme donne une pruta, une pièce à l'autre. Akadosh Baruch Hu noten lo nafsho. Akadosh Baruch Hu lui donne nafsho, sa personne. C'est le même mahalach, c'est le même chemin, c'est la même façon de se déplacer. Noten, ça veut dire que l'on est original, on produit quelque chose. On a apporté quelque chose. Ce que Akadosh Baruch Hu donne à l'homme, c'est nafsho. À partir de ce moment-là, il peut lui donner à l'autre. Et s'il donne à l'autre, il a conquis ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné, nafsho. Celui qui donne, pruta lo chavero, Akadosh Baruch Hu noten lo et nafsho. Il a une certaine liberté. Et c'est ça ce que nous disons, tzedaka tatzil mimavet, la tzedaka sauve de la mort. De quelle mort elle va sauver? De la mort qui est déterminée. Ce qui est déterminé par mes artères, je peux le transcender. Ce qui est prévu par Akadosh Baruch Hu, on bute sur la terre, cette mavette-là, cette mort-là, on n'en parle pas. Ok. Quelqu'un il peut faire la tzedaka. Chaque jour de sa vie, chaque instant de sa vie, il ne peut faire que ça. Plus que 120 ans, plus que le temps qui lui a été imparti par Akadosh Baruch Hu, du fait de ses actions, il n'aura pas. Mais le temps qui lui est déterminé, comme un animal, un végétal, un minéral, sont déterminés, et en cela l'homme aussi est déterminé, ça, Israël peut échapper à ça. C'est ça le pshat. C'est comme ça qu'on comprend. Tzedaka tatzil mi'olet. La tzedaka sauve de la mort. Ça ne veut pas dire qu'on peut renier le fait. Mais ça veut dire que dans une certaine mesure, on dispose soi-même de sa vie. On peut disposer de sa vie à concurrence du but qu'on a à assumer sur terre. Donc la question habituelle qui est, mais il y a marqué tzedaka tatzil mi'olet. Celui-là, il est mort Baruch Hashem à 108 ans, comment c'est possible? Il a donné la tzedaka une fois dans sa vie. C'est pas ça le problème. Le problème n'est pas la bichlal. Tzedaka tatzil mimavet, ça veut dire que ce dont tu peux disposer, on te le donne. Maintenant, le temps qui lui est imparti. Parce que la neshama a besoin du gouffre, a besoin du corps pour se réaliser, pour agir, pour produire. Un certain temps, pas d'éternel. Ce temps-là, qui lui est imparti par Kadosh Baruch Hu, ça, il ne pourra pas le changer. Tzedaka tatzil mimavet, c'est seulement dans ce qui est déterminé. Les lois de la nature font que, là, on peut y échapper. On a dit qu'on pouvait y échapper par trois moyens. Par la teshuvah, puisque je renie ma vie précédente, je recommence, j'en ai une nouvelle. Par la tefila, parce que je ne suis pas seul, et Akadosh Baruch Hu peut me redonner quelque chose aussi. Et par la tzedaka, et on voit maintenant que la tzedaka, justement, c'est le moyen qui m'est propre, et qui ne m'oblige pas ni à recommencer, ni à dépendre. Il n'existe pas d'homme qui n'a pas de besoin, et il n'existe pas d'homme qui ne peut pas fournir ses besoins. Le monde a été créé ainsi. C'est vrai que je ne sais pas comment me confectionner un vêtement. Mais je sais peut-être comment gagner l'argent pour l'acheter chez le tailleur. Le tailleur, lui, ne sait peut-être pas comment gagner cet argent-là, mais il sait comment confectionner un vêtement. Toute la nature est faite d'échanges. Quelquefois, on échange du gaz carbonique contre de l'oxygène. Quelquefois, on échange quelque chose contre la fausse monnaie, mais en fin de compte, c'est de l'échange. Toute la vie est faite comme ça. Non seulement elle est faite comme ça, mais on est presque obligé de dire que le besoin de l'autre a été créé pour que je puisse le satisfaire. Et mon besoin a été créé pour qu'un autre aussi puisse le satisfaire, pour que tous les deux on puisse vivre l'un à côté de l'autre et que tous les deux on ait une originalité. Parce que si je n'avais pas de besoin que l'autre puisse satisfaire et l'autre non plus n'en avait pas, on serait tout seul. Et on serait tout seul, on serait enfermé. On ne serait pas libre. Cette liberté, c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a créé tellement d'hommes, tellement de possibilités. C'est comme ça que nous comprenons que le peuple juif a toujours échappé à toutes les règles de l'histoire. Vous pouvez appliquer tout ce que vous verrez dans Marx, dans Hegel, dans tout ce que vous voulez, vous pouvez les appliquer à toutes les civilisations. Au peuple juif, c'est inapplicable, ça ne s'est jamais appliqué. Il n'y a pas eu de préhistoire, et même si on dit qu'Abraham Avinu, c'est la préhistoire, il n'y a sûrement pas eu d'esclavage d'un juif par rapport à l'autre. Il n'y a jamais eu dans la société juive d'homme bourgeois, et il n'y a jamais eu de révolution. Justement, cette liberté de voyager à travers le temps sans obéir aux règles qui sont celles classiques de l'histoire et celles qui sont déterminées, elle vient du fait que la Torah a institué en obligation la tzedaka. Elle a institué en obligation le fait de donner facultativement. Des impôts, on a vu ça dans toutes les sociétés. Mais une société qui demande un impôt volontaire, on n'a jamais vu ça. Impossible. Impossible de voir ça. Et cette société, elle doit être viable. Et elle a vécu déjà plus de 3000 ans. Et elle échappe à toutes les règles de l'histoire. Il y a 2000 ans, on ne pouvait pas être sûr que ça marchait. Mais aujourd'hui, on est déjà sûr que ça marchait. Les Romains, ils ont essayé une nouvelle société. C'est la société de l'esclavage. Elle a été renversée par ce qu'on appelle l'homme bourgeois. Chacun a essayé un type de société qui a disparu. Le clan Israël, il n'a pas disparu. Parce qu'il désobéit à ces règles-là. Parce qu'il a une possibilité qui est non seulement la teshuva et la tfila, mais qui est la tzedaka. C'est comme ça qu'il a régi son histoire et c'est comme ça qu'il se perpétuera toujours. C'est la raison pour laquelle on a institué dans les 12 tribus une tribu qui s'appelle la tribu de Lévi. Et lorsqu'on a partagé Eretz Israël, on ne lui a pas donné de part pour qu'il puisse dépendre des autres. Tout le monde se demande, mais c'est pas possible. Quelle injustice. Le pauvre Lévi, il n'a pas de terre à cultiver. Tout le monde a une terre à cultiver. Tout le monde sait qu'il y avait 13 tribus. Lévi, on a partagé Eretz Israël en 12. Lévi n'a pas eu. Parce que Yosef a eu 2, Ephraim et Menaché. Lévi n'a rien eu. De l'autre côté, il y a encore une autre injustice. Il y avait un temple. Il y avait le Beth Amikdash. Personne n'avait le droit de rentrer. Il n'y avait que Lévi qui avait le droit de rentrer. Ça, c'est l'échange que la Torah demande. Lévi, dit le Rambam. La Torah, c'est marqué dans le Rambam, dans Maïmonide, Ilchot Shmita V'Yovel, 13e Perek. Il dit, la tribu de Lévi a été Nivdel et on l'a mise à part pour que la Torah puisse se perpétuer. Et c'est pour ça qu'il est marqué Yoru Mishpatecha Yaakov. La Torah doit pouvoir se perpétuer. Il doit y avoir des gens qui sont là pour donner quelque chose à l'enseignement. Et il y a les autres qui ont la terre. Et dit le Rambam, chacun peut faire partie de la tribu de Lévi. Kol ish veish, asher nad vaito rucho. Chacun qui a décidé, qui a eu l'inspiration, libadel midar kevne adam, de vouloir enseigner la Torah dans le peuple d'Israël, celui qui veut l'étudier et veut l'enseigner, il a une forme de tzedaka qui est celle de la tribu de Lévi. La société juive a été fondée comme ça. Et c'est pour ça qu'elle a échappé à toutes les règles de l'histoire. Je terminerai juste par ce qui est marqué dans le Yerushalmi, dans le Talmud de Jérusalem, dans Péa au premier Pérec. Il y a marqué dans le verset Rodef Tzedaka Vachesed. Yimtsa Chaim Tzedakar Vakavot. Rodef Tzedaka Vachesed veut dire Rodef, celui qui poursuit. Il y a deux personnes qui donnent. Celui qui est sollicité, on ne sait pas s'il donne à l'autre ou il donne à lui-même. Parce qu'au moment où il est sollicité, on a créé chez lui un besoin. Peut-être d'avoir la paix ou peut-être d'être satisfait. Et à ce moment-là, il est obligé de satisfaire ce besoin. C'est la première madriga, c'est la première possibilité de tzedaka. Il y a une autre possibilité, rodef tzedaka vachesed. Il essaye de chercher s'il n'y a pas pour lui une possibilité de tzedaka. C'est celui-là que yimtsa chayim. Ça n'est pas seulement avec la sollicitation. Et non seulement ça. La Gemara dit dans Baba Batra, Dafiou, la Gemara dit, Matan be seter yirpeaf. Ce que l'on donne, on doit le donner be seter. Be seter, ça veut dire en cachette. Parce que lorsque je donne à celui qui a besoin, je lui donne et je lui prends quelque chose. Irsif, il a honte. Si ce que je lui donne, je lui prends de l'autre côté. Je lui enlève de l'autre côté. Il manque dans la tzedaka. Même si lui est prêt à faire l'échange. C'est l'échange du gaz carbonique et de l'oxygène. Il est prêt à faire l'échange. On vend toujours quelque chose pour avoir autre chose. Mais matan be seter yirpeaf. Yirpeaf, ça veut dire ça enlève la punition. ça enlève le déterminisme, ça enlève ce qui a été fixé, ça enlève les lois de la Torah elle-même qui disent que pour chaque acte, on sera obligé un jour de rendre des comptes. Matan Beseter, si tu as donné quelque chose et que l'échange est en ta faveur entièrement, tu n'as rien pris du tout. Yirpeav, c'est ça la possibilité. Je vais donc terminer. Je ne savais pas que Benny Cohen en parlerait. Mais je vais donc terminer en disant deux mots, pas sur cette yeshiva ou une autre yeshiva, mais sur le principe même du limoud. On a vu qu'il est marqué dans la Gemara, dans Ktuvot Dafnoun, la Gemara dit, qu'est-ce que c'est Tzidkato Omedet Laad? La Tzedaka Omedet qui est fondée. Laad et qui dure, qui reste, qui existe. C'est à l'Omed ou me lamda la Acherim. Celui qui apprend et qui donne la possibilité à d'autres d'apprendre. Il a toujours existé dans le Klal Israël des institutions. Toujours. Elles ont toujours vécu et il n'y a jamais eu d'impôt qui soit là pour subvenir aux institutions. Aujourd'hui, on assiste malheureusement à un problème simple. C'est que l'on essaye de calquer la société juive, la communauté juive, sur la communauté ambiante. Vous savez que l'impôt, c'est quelque chose de très impopulaire. Alors on en demande beaucoup ou peu, ça dépend des estimations, directement, et on lève des impôts directs. La communauté juive aussi essaye de lever des impôts indirects. Pour ne pas demander des impôts directs, ou pour ne pas solliciter directement, on lève des impôts indirects. Si je veux acheter de la viande cachère, je suis obligé de donner 6 ou 7 francs, je ne connais pas exactement par kilo. Malheureusement, si on veut faire enterrer quelqu'un, ou heureusement, si on veut se marier, on passe de nouveau à la caisse. C'est le système de l'imposition indirecte. Le système de l'impôt indirect, c'est exactement le contraire de ce que veut la Torah. Parce que c'est une imposition, alors que la Torah demande un choix. Quelqu'un n'a pas le choix de se marier ou de ne pas se marier. Il n'a pas le choix de mourir ou de ne pas mourir, il est obligé d'être enterré. Il n'a pas le choix de manger ou de ne pas manger. Et le fait de l'imposer directement va à l'encontre de tout ce qui a fait la pérennité de la société et de la communauté juive. Ce qui a fait la pérennité de la société juive, c'est non pas l'impôt direct, mais c'est la tzedaka. Personne ne demande rien à personne. Mais tout le monde sait que la communauté est obligée d'avoir des institutions. Chaque juif, lui aussi, participe, qu'il le veuille ou non, à l'omed ou melam d'alacherim. Il y a un échange entre les juifs qui est d'apprendre et d'enseigner. Tout celui qui participe à cet échange d'apprendre et d'enseigner, c'est ce qui s'appelle Tzidkato Omedet Laad. Lorsque Benny Cohen a parlé des virements permanents, je me suis dit que peut-être on avait trouvé la solution pour concilier les deux formules de la Gemara. Parce que la Gemara demande comment peut-on faire la Tzedaka Bechol Et à chaque instant. Et elle demande comment peut-on avoir une Tzedaka Omedet Laad à chaque instant, puisque c'est permanent, et que l'autre existe grâce à cette permanence, ça s'appelle Tzedaka Bechol Et, à chaque instant. Omed et Lahad, c'est ce qui s'appelle l'Omed ou Melam Dalachirim. Il est obligatoire pour la communauté d'avoir des institutions. Elle ne peut pas vivre sans ça. Tout celui qui participe à ces institutions, il doit savoir que de toute façon, ces institutions, elles existeront comme le clan Israël existera toujours. De toute façon, la Torah existera toujours dans le clan Israël. C'est une promesse qu'a fait Akadosh Baruch Hu, Loyamushu, Mipicha, Mipi, Zaracha, Mipi, Zera, Zaracha, Meata, Vead, Olam. Loyamushu, les paroles de la Torah, l'étude de la Torah, ne quittera jamais la société juive. Mipi Zaracha, de ta descendance, de la descendance de ta descendance, ad olam, jusqu'à ce que le Mashiach vienne, ça existera toujours. Le problème est de savoir qui c'est qui l'aura fait. C'est ça le vrai problème. Qui c'est qui l'aura fait? Celui qui le fait. C'est comme ça qu'on a commencé. La seule chose qu'on peut lui dire, c'est tisquer la mitzvot, ça veut dire que par le fait que tu fasses quelque chose, par le fait que tu as conquis cette liberté de ne pas être seul de pouvoir donner, que Akadosh Baruch Hu aussi te donne cette possibilité plus loin, c'est ça, Chaim, c'est pour ça que nous disons Tzedaka Tatzimim Avet, et c'est ça ce que ça veut dire lorsqu'on dit Tiske la Mitzvot.
Nous remercions Rav Eman pour cette conférence sur Tzedaka. Maintenant, ceux qui ont des questions.
Vous avez dit d'une part qu'on avec la Tzedaka, on pouvait changer la façon dont on était déterminé a priori, comme une pierre ou comme un animal. Et d'autre part, on ne pouvait pas changer la vie qui nous était destinée au départ, par rapport à Baruch Hu, qui voulait qu'on était à l'état du type de vie, après ce que j'ai compris. Je ne vois pas concrètement la différence.
Bon, d'accord.
On a posé une question aussi. Quelle est la valeur de la Tzedaka provenant d'un bien mal acquis?
D'accord. La première question était, on dit Tzedaka Tatzil Mimavet. Et c'est ce qu'on avait dit, qu'en fin de compte, il existe des personnes qui meurent. On avait donné l'exemple à 108 ans, en ayant une fois fait la Tzedaka. Alors on ne comprend pas très bien. Alors on va essayer d'expliquer un petit peu. Chacun a une vie qui dépend de ses maasim, de ses actions. Et il a une vie qui dépend du mazal, c'est-à-dire de ce qui est déterminé. Conquérir la vie qui dépend de ses actions et ne pas vivre la vie qui est déterminée, c'est ça le choix de la mitzvah. Personne ne pourra vivre éternellement. Ça c'est gzera imilfanai, c'est une gzera. La vie a été donnée, elle a un terme. Seulement elle peut avoir une valeur et une longévité qui est référence aux actions, en particulier ce qu'on a dit là, tzedaka, et elle peut avoir une valeur et une longévité qui est en référence à un déterminisme, c'est-à-dire que je ne choisis pas. Ce que nous avons dit, c'est que la possibilité qui est donnée par la tzedaka, c'est de pouvoir justement passer de l'une à l'autre. Ce qui ne veut pas dire qu'on possède l'éternité, mais ce qui veut dire Tatsil Mimavet, ça veut dire enlève le mazal, enlève ce déterminisme qui existe dans les autres règnes. Ça, c'est la première chose. Donc, ça n'est pas ce qui est prévu par Akadosh Baruch ou pas prévu. De toute façon, tout est prévu. Donc, ce n'est pas le problème. Celui qui sait, il sait aussi ce qui va se passer. Le problème est de savoir qu'est-ce qui a été prévu que je choisirai ou que je ne choisirai pas. Ça ne m'intéresse pas puisque c'est à moi de le déterminer. La question de savoir comment il faut se conduire vis-à-vis de la tzedaka, elle est très simple. La Torah nous dit, la Gemara dans Baba Basra amène ce verset, si vous voulez regarder tous les dîmes de la tzedaka, ils sont en particulier au Daftet, Yud et Yud Alef dans la Gemara dans Baba Basra. La Gemara ramène le verset Allo Peros la Raev Lachmecha Vani Merudim Tavi Bait. La maison juive, c'est une maison ouverte. C'est une maison qui n'est pas créée seulement pour celui qui y habite, mais c'est une maison qui est faite pour accueillir. Le but de la maison, ça n'est justement pas seulement de me permettre ma solitude et de m'écarter des autres et de me déterminer dans ma maison. Mais c'est aussi une possibilité pour moi d'accueillir l'autre et de lui donner. Rodef tzedaka, ce que nous avons dit, poursuivre, ça veut dire celui qui cherche. Et c'est pour ça que si vous regardez là-bas dans la Gemara dit, Kola noten mikiso, tout celui qui est mafriche, qui prend une prouta de sa poche, qui donne quelque chose de lui-même, que ce soit d'argent ou autre chose, Akadosh Baruch Hu mamtzilo, on lui donne d'autres possibilités. Ça veut dire que je ne sais pas si ce que j'ai, c'est pour moi, ou je suis seulement celui qui peut le distribuer aux autres. Et avec ça, on va répondre au problème du bien mal acquis. Ce que j'ai reçu, ce que je possède, ce qui m'a été donné, c'est un moyen pour moi non seulement de m'y attacher, d'être déterminé par cela, mais justement d'en faire quelque chose qui soit créatif. Je ne sais pas ce que j'ai en main, les possibilités que j'ai, que ce soit n'importe quelle possibilité. Je ne sais pas si elles m'ont été données pour moi ou justement pour les autres. À partir du moment où j'arrive à les développer et les faire rayonner, c'est ça ce que nous appelons la tzedaka. C'est pour ça que Rodef, ça veut dire on poursuit un but. Lorsqu'on me donne quelque chose, que ce soit une qualité, une intelligence, un moyen, qu'il soit matériel ou autre, je peux rester attaché et déterminé par ce moyen-là, ou je peux le faire exploser et je peux en faire une occasion pour les autres. C'est ça, donner de la vie aux choses. Ce que l'on dit « En mazal Israël », mais pour que les, et que pour les goyim, il y a « Oui, en mazal », c'est justement parce que celui qui a la mitzvah et qui pratique la mitzvah, qui a la tshuva, la tfila et la tzedaka, celui-ci il peut sortir du mazal. Celui qui n'a pas accepté ce moyen-là, qui ne l'a pas voulu, qui ne le veut pas, lui, au contraire, il est victime du déterminisme. C'est pour ça qu'on dit « En mazal le Yisrael », à partir du moment où j'ai accepté la Torah, qui par la mitzvah me permet d'exister en tant que tel et de ne pas être victime de l'existence. Alors à ce moment-là, je dis « En mazal le Yisrael » et seulement le Yisrael. Ce qui ne veut pas dire que dans certains cas, lorsque le goy donne de la tzedaka, il ne fait pas une mitzvah. Le problème est de savoir, est-ce que je l'ai accepté comme système, ou alors j'ai un geste de bonne volonté occasionnelle, et de même que hier j'ai donné, demain je ne donnerai pas. Il y a une expression très dure, que la Gemara cite justement dans Baba Batra. Chesed leumim chatat. Chesed leumim. Lorsque les nations font du chesed, elles font de la bonté, elles pratiquent la charité. Chatat, c'est une faute. Pourquoi? Parce que ça n'est qu'un échange. Je te prête, tu me prêtes. Je te donne, tu me donnes. C'est simplement pour organiser la société. Ça n'est pas pour donner à l'autre. C'est parce que si je ne donne pas à l'esclave, il ne restera pas en esclavage. Et si l'homme bourgeois ne se crée pas une société qui est un petit peu égalitaire, la révolution viendra plus vite. C'est comme ça qu'on construit le chesed. Mais si celui-ci le comptoit autrement, c'est-à-dire selon les mitzvot de la Torah, alors de nouveau revient le même système qui est celui de la Torah. Ah, ça c'est une Gemara. La Gemara dit « Me farnesi manie Israël, imanie akum, mipne darke shalom. » Ce que je donne à un juif, je dois le donner aussi à Ogoy, mipne darke shalom, pour que la paix s'instaure, pour ne pas faire de différence. Pas parce que je pense que celui-ci fait partie de mon système, mais parce que on ne peut pas vivre à longue échéance avec deux systèmes qui ne peuvent pas cohabiter d'une façon trop criarde. Mipne darke shalom, ça veut dire que il ne faut pas provoquer la jalousie de l'un par rapport à l'autre. Et lorsque j'ai montré quelque chose à quelqu'un, je ne peux pas lui mettre un plat de lentilles devant lui, ou je ne peux pas lui mettre une assiette de soupe et ensuite lui la retirer et lui dire que c'est pour l'autre. Ça, c'est ce que dit la Gemara. Mipne darke shalom, je dois me conduire de la même façon. C'est un problème. C'est un problème. Le problème, il est de savoir, est-ce que c'est fait en tant que, justement, création d'une nouvelle ou d'un nouveau genre de société, ou c'est fait en tant que tzedaka? Si c'est fait en tant que tzedaka, alors là se pose le problème. Si c'est fait simplement parce que l'on conçoit que la société doit se maintenir et que les juifs, à partir du moment où on ne les aide pas, alors c'est un foyer de révolution et c'est cela, ça c'est ce qu'on appelle Chesed Umratat. Maintenant, est-ce qu'à l'pi alacha, on a le droit d'accepter, dans quelles conditions on a le droit d'accepter? Ça, il faut regarder dans le Shulchan Aruch. Les cas sont assez nombreux, il faut les regarder. Shulchan Aruch, il statue exactement dans quel cas oui, dans quel cas non, pour quel besoin oui, pour quelle œuvre oui, pour quelle œuvre non. Mais dans le principe, ce qu'on appelle chesed lohumim, ça veut dire que lorsque je veux calmer la faim d'un autre, en vérité, c'est pour pouvoir instaurer une société qui puisse, puisqu'elle est égalitaire, se maintenir. Parce que à partir du moment où le goy n'a pas de but après ce monde-ci, il n'a que celui de régir ce qui se passe ici. Régir ce qui se passe ici, cela s'appelle chesed lohumim chatat. C'est pas un chesed ça, c'est un chesed qu'on se fait à soi-même. C'est que s'il n'y avait pas la police, je serais victime des voleurs. Alors à partir de ce moment-là, dans ce système-là, nous on ne rentre pas. Pas du tout. Alors je vais vous dire, la différence elle est celle-ci. C'est que le chesed par rapport à la tzedaka, c'est que la tzedaka, c'est remettre, on pourrait dire, les pendules à l'heure. Alors que le chesed, il est possible de faire du chesed avec quelqu'un même s'il n'a pas de manque. Et on peut le faire aussi même s'il a un manque. C'est pour ça que la Gemara dit que gadol ha-chesed min ha-tzedaka. Le chesed, c'est plus grand que la tzedaka. En quoi c'est plus grand que la tzedaka? C'est que la tzedaka s'adresse à celui à qui il manque, au pauvre, anim. Anim, ça ne veut pas dire simplement le pauvre dans l'argent, il peut être pauvre dans autre chose. Alors que le chesed s'adresse aussi à celui qui est riche, c'est-à-dire qui a déjà quelque chose. Ça veut dire, mais ça c'est déjà une autre dimension, c'est que à part le fait de vouloir combler ce qui existe chez l'autre, je peux moi vouloir lui donner plus que ce qu'il a, bien qu'il n'ait pas de manque. Donc le chesed englobe la tzedaka. Mais la tzedaka, elle n'englobera pas le chesed. Ça c'est la différence entre les deux. C'est pour ça que la tzedaka, souvent, elle est déterminée sous gemilot chassadim. Ça fait partie. Mais le terme chesed, ça a plus de portée que le terme la tzedaka.
Les premières anecdotes que vous nous avez racontées illustrent très bien que la tzedaka est une marée. Maintenant, qu'est-ce qui me dit que nous, comme du 20e siècle, ce sera aussi bien valable dans le domaine de la tzedaka? C'est-à-dire que la tzedaka s'ouvre bien.
Alors attention. Là, il faut être clair. Il y a un des articles de foi de Maïmonide, tout le monde les connaît, il y en a 13. Ani ma'amin be'emuna shelema, she'tora zu lo tiyeh mukhlefet. La Torah, elle ne change pas. Il n'y a pas une Torah pour le 2e et le 3e siècle, une Torah pour le 20e siècle. Ce que la Torah dit, ça ne dépend pas du temps. Ce qui était valable à l'époque de Rabbi Akiva, c'est valable aussi maintenant. Et chacun pourra raconter des histoires où il pourra voir que cela dépend de ceci, cela dépend de cela. La Gemara raconte parce que lorsque Rabbi Akiva raconte une histoire, lorsque Shmuel raconte une histoire, ça a plus de valeur objectivement que lorsque n'importe qui d'autre la raconte. Mais de dire que ça a changé, qu'aujourd'hui c'est plus pareil, ça ne sera pas pareil, c'est impossible. Parce que ce qui existe comme système, de même que je vois que la nature n'a ni régressé ni changé, de même la Torah, qui elle régit même la nature, ni elle ne changera, ni elle ne régressera. Ce qui a été donné comme halakhot, c'est-à-dire ce qui a été donné comme façon de se déplacer, comme conduite, ça existera ad olam. Lo yamushu mi picha ou mi pizera zaracha ad olam. Il n'y a rien qui changera. La Torah, elle ne change pas. Le système, il ne variera jamais. Je ne sais pas si ça fait partie de la mitzvah de tzedaka de commencer à parler des autres. Je vais vous dire en deux mots. Il est difficile de parler de certaines institutions. Parce que c'est les hommes qui changent et c'est les institutions qui restent. Une institution, ça doit être des hommes. Comme il y en a toujours un qui est parti, et toujours un qui a démissionné, et toujours un qui revient, il est difficile de parler de l'institution elle-même. L'institution, elle n'a pas été créée pour la Torah, ni par la Torah, ni pour les Juifs, ni par les Juifs. Elle a été créée par Napoléon pour assimiler le judaïsme français. À partir du moment où je me mets dans cette institution, quoi que je fasse, elle restera une institution. Donc ce n'est pas la peine d'essayer de savoir pourquoi, comment et comme ceci. Il faudrait s'adresser à celui qui dirige. Mais l'institution, elle ne veut rien dire. L'institution, elle a été créée pour représenter le judaïsme et pour diriger la vie juive, que ce ne soit plus seulement les rabbins, parce qu'ils sont trop religieux et ils dirigent le judaïsme selon une voie qui ne convenait pas à Napoléon. C'est la raison pour laquelle il a créé le consistoire. De cette institution, on peut faire ce que l'on veut, on peut la changer, on peut la remettre, on peut la refaire. De l'institution, je n'ai pas à parler. Des hommes, sûrement pas. Donc ici, ce n'est pas notre problème. La seule chose que je peux vous dire, j'ai déjà raconté souvent cette histoire, c'est que les hommes n'ont pas la foi dans ce que dit la Torah. Et c'est très simple. C'est l'histoire de Korach, tout le monde la connaît peut-être. Je vais quand même la répéter. Korach, c'est celui qui s'est rebellé contre l'autorité qui avait été donnée par la Torah à Moshe Rabbeinu. Lui aussi a voulu être parmi les chefs. Le Midrash raconte que pour activer la révolution dans le clan d'Israël contre Moshe Rabbeinu, il est venu leur raconter une histoire. Cette histoire, c'était la projection de ce qui se passerait lorsqu'il rentrerait en Eretz Israël. Puisque vous savez que l'histoire de Korach a eu lieu dans le désert lorsqu'ils ont quitté l'Égypte avant de rentrer en Eretz Israël. Après que Moshe ait donné la Torah, Korach est venu et devant toute l'assemblée, il a tenu le discours suivant. Il a dit, je vais vous raconter ce qui va se passer en Eretz Israël. Il est arrivé une fois qu'il y a une veuve. Son mari venait de mourir. Et elle avait les champs à cultiver. Elle avait les troupeaux à garder. Elle a commencé à travailler, elle et sa fille, au champ. Lorsqu'elles sont arrivées au bout du champ, il y a quelqu'un qui lui est venu, attention, il y a une mitzvah de la Torah de laisser pour les pauvres le coin du champ, P.A. On n'a pas le droit de tout prendre, il faut laisser le coin. Elle a laissé le coin. Elle a pris le reste, et comme elle n'avait pas beaucoup de force, ni elle et sa fille, il y a des épis qui sont tombés. Un autre est venu lui dire, attention, tout ce qui est tombé, c'est pour les pauvres. Tout ce que tu as oublié dans le champ là-bas, c'est pour les pauvres. Elle est revenue, il ne resterait déjà plus tellement de choses. Est venu le grand prêtre, ou le prêtre, il lui a dit, il faut donner la terouma. Combien ? Un 25e, un 30e, un 40e, un 20e. Elle a donné. Est venu le Lévi, Maaser Rishon, un 10e. Ça fait déjà pas mal. Est venu le pauvre, encore un 10e. Maaser Ani. Elle a vu que ça valait plus la peine de travailler, elle a vendu le champ. Il lui restait un troupeau. Baruch HaShem, elle a eu un premier-né. Le Kohen est venu, il a dit, Kol Bechor, pour le Kohen. Parti. Elle a dit, il y en a assez. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire de l'abattage. Vous connaissez ça? Abattage rituel. Et on va vendre de la viande? C'est une bonne panassa. Tout de suite, on est venu chez lui, on a dit, Matanot, la Kohuna. Il faut donner les Matanot une partie de la viande après la Shrita. Zroa, le Chayaim, Keva, une partie de la bête. Allez, parti pour le Kohen. Elle a vu que ce n'était pas un business, elle a tout vendu. Il lui restait une brebis. Elle a dit, avec la brebis, j'aurais du lait. Et puis au moins, je pourrais me vêtir. Elle a commencé à l'attendre. On est venu, on lui a dit, Réchi Tagez, le début de l'attente. Il faut la donner aussi. Elle est partie, elle a dit, restez tout seul en Eretz Israël, moi je m'en vais. Ça, c'est l'histoire que Korach a racontée. Ça veut dire que si on observe ce que la Torah dit, on ne s'en sortira pas. Ça, c'est l'histoire de Korach. Lorsqu'on part sur un a priori que si on maintient une société selon ce que la Torah demande, on ne s'en sortira pas, alors on commence à lever des impôts indirects. Tout dépend de la émouna, de la foi qu'on a dans le clan d'Israël. Si on a une foi dans le clan d'Israël, que de même qu'il a toujours vécu, il vivra toujours, à partir de ce moment-là, on n'a pas besoin d'avoir peur ni de lever des impôts indirects, on n'a pas besoin d'avoir peur, on n'a pas besoin de taxer les morts, ni taxer les morts en Israël, ni taxer les voyages par eux, rien du tout. Selon le problème, c'est qu'à ce moment-là, il faut créer des institutions. À ce moment-là, il faut prendre en charge la communauté. Si on lui donne à manger, et qu'on ne la prend pas en charge, et qu'on ne crée pas d'école, et qu'on ne crée pas de yeshivot, et qu'on ne crée pas le système qui est celui de la société juive, alors on en vient à être obligé de lever des impôts. Donc personne n'a à juger ce qui se passe, ce qui ne se passe pas. Chacun doit savoir que la société juive, elle ne sera pas créée par les institutions, mais elle sera créée par les juifs eux-mêmes, elle est créée par la communauté elle-même. Ce que la communauté veut faire, elle le fait, et ce qui vivra dans la communauté, c'est le produit de ce que les juifs auront fait. Ça n'est pas le produit de ce qu'une institution aura inventé pour les taxer. Ça, c'est la émouna que nous devons avoir et dont nous sommes sûrs que nous aurons dans le clan Israël. Peut-être un endroit ça ne marchera pas et dans un autre ça marchera. Mais dans le clan Israël, en général, il y a une promesse. Elle existera, la Torah existera toujours. Donc ce n'est pas la peine d'essayer de trouver et de copier les moyens des autres. De toute façon, on s'en sortira.
J'ai deux questions là. Peut-on savoir dans quel but Michel Baron a fait la tzedaka pour la yeshiva?
Deuxième question.
Y a-t-il une inégalité devant la tzedaka? En effet, n'est-il pas plus facile pour un riche de donner la tzedaka qu'un pauvre?
La deuxième question est meilleure que la première. La deuxième question était, n'existe pas une inégalité devant la tzedaka, puisque la tzedaka est plus facile pour un riche que pour un pauvre? À cela, il y a deux réponses. D'abord, on est toujours riche dans quelque chose. L'un est riche dans l'argent, l'autre est riche dans autre chose. Il est rare qu'on soit riche dans tout. Surtout, puisque c'est bien connu, que celui qui est malheureux, il ne peut pas apporter beaucoup aux autres, et que l'argent ne fait pas le bonheur. Donc il existe quand même une certaine égalité, pas devant l'argent, mais devant la tzedaka. La deuxième réponse, elle est très simple. Et je vais vous raconter encore l'histoire du Chazon Ish. Un jour, quelqu'un est venu chez le Chazon Ish pour emprunter de l'argent. Il y avait un homme très riche. Il lui a prêté. Et cet homme-là a dit, je veux que tel et tel soit garant. Le Chazon Ish a dit d'accord. Il a appelé la personne, ils ont signé, l'emprunt est fait avec le garant. Lorsque l'homme qui avait prêté est sorti, le Chazon Ish a dit dommage. Le principal goût, le principal salaire de la tzedaka, c'est le risque que tu prends lorsque tu prêtes. Si tu t'es garanti, il y a déjà beaucoup moins. Pourquoi avoir perdu la moitié de la mitzvah? C'est comme ça que le Chazon Ish a dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la mitzvah, elle est dans l'effort qu'on fait. Elle n'est pas dans le résultat. Celui qui donne de la tzedaka à 100 francs par mois parce qu'il n'en gagne que 1000, lorsqu'il donne son maaser, il a fait beaucoup plus d'efforts, il a fait beaucoup plus de tzedaka, il a acquis une liberté beaucoup plus grande que celui qui en donne 5000 parce qu'il en donne 50000. Maintenant, la nature de l'homme étant que yesh lo mané rotse mataim. Celui qui a 100 francs, il en veut 200. Et donc, c'est encore beaucoup, beaucoup plus dur pour celui qui a les 200 d'en donner 20 que pour celui qui n'en a pas. Donc, en fin de compte, ils sont quand même à peu près égaux. Parce que celui qui donne beaucoup parce qu'il a beaucoup, c'est tellement difficile pour lui qu'en fin de compte, il a fait presque autant d'efforts ou au moins, on pourrait dire autant d'efforts que celui qui a donné peu parce qu'il a peu. Ça veut dire qu'on ne demande pas, et c'est ça la imouna qu'on doit avoir, on ne demande pas le résultat c'est Akadosh Baruch Hu qui le fixe. Le résultat c'est Akadosh Baruch Hu qui a promis que le clan Israël existerait toujours. Ce que l'on demande, c'est la prise en charge. C'est que chacun, il soit l'omed ou melamed, que chacun il ait cette possibilité de permettre quelque chose. Quelle est la possibilité qu'il a? C'est à lui de la calculer. Et la tzedaka, elle sera mesurée selon l'effort qu'il a fait. Le résultat, on ne peut pas savoir. Quelquefois, avec une petite prout, avec quelque chose de tout petit, on fait quelque chose d'immense. Et quelquefois, avec quelque chose de grand, le lendemain, c'est perdu, il n'y a pas de résultat. On ne peut pas savoir. Ce qui ne veut pas dire que c'est dommage de donner quelque chose de grand.
Et quand on met des enfants dans une école,
ouais. Alors, je vais vous dire, ça, c'est une question assez difficile parce que ça dépend de beaucoup de paramètres. Et il existe des cas où on peut le faire, il existe des cas où on ne peut pas le faire d'après l'Halakha. Il vaut mieux s'adresser à son rabbin pour essayer de savoir dans quel cas on peut, dans quel cas on ne peut pas. Parce que c'est pas quelque chose qui est tranché de telle ou telle façon. Ça dépend des possibilités, ça dépend comment est-ce qu'on donne le maaser autrement, ça dépend si on le donne autrement, ça dépend de beaucoup de choses.
Est-ce
De toute façon, une chose est sûre, c'est que celui qui n'a pas la possibilité de donner le maaser, de le donner de cette façon, ça lui compte comme maaser. Mais que celui qui a la possibilité de donner de cette façon-là, c'est pas tellement facile. Donc il vaut mieux demander au rabbin. La première question, c'est quoi? Vous l'avez entendu? Si vous l'avez entendu, je vais être obligé de vous dire une seule chose. C'est en même temps facile et en même temps difficile de juger un homme. Le seul qui peut juger vraiment des hommes, c'est Akadosh Baruch Hu. Nous, on ne peut émettre qu'une critique à l'égard d'une action, ou alors une louange à l'égard d'une autre action. De connaître les motivations de quelqu'un et de juger des motivations de quelqu'un, non seulement c'est indécent, mais en plus, on a le plus grande chance de se tromper. Donc, à mon avis, la question, même si elle peut révéler d'un intérêt qui peut être, je ne sais pas s'il est politique, commercial, historique, je ne sais pas pourquoi, mais à mon avis, ça ne regarde que celui qui fait et comment il fait.